entièrement consacré aux sorties musicales de la vieille capitale. Tous les lundis, 14h, sur les ondes de Chiz 94.3. C'est toujours mieux d'écouter local.
Savoir ce qui se passe chez toi, c'est le fun, mais t'as fait le tour pas mal vite, puis t'es peut-être curieux de savoir ce qui se passe ailleurs aussi.
Chez le voisin, c'est ton émission d'actualité internationale où on te garde les moments forts et inusités de la semaine qui sont passés partout autour du globe. Animé par deux globe-trotteurs de salon attachant, on te promet de te faire voyager sans trop terminer.
Chez le voisin, c'est les mardis de 13h à 14h sur Chiz 94.3.
The following program is disturbing.
Crash Crowd.
Mardi 20h.
Chiz 94.3.
Découte!
Les enjeux de santé te préoccupent? À ta santé, c'est ton émission de radio qui t'en apprend davantage sur la santé globale en te faisant découvrir des experts, des professeurs, des étudiants et des travailleurs passionnés. Entre Planète et Stéthoscope, rejoins-nous un jeudi sur deux à 11h sur les ondes de Chiz 94.3 et en balado-diffusion sur www.chiz.ca.
Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à l'émission 3600 secondes d'histoire. Vous êtes sur les ondes de Chiz 94.3. Mon nom est Annie-Pierre Brunel et je serai votre animatrice pour l'émission de ce soir. Je vais être accompagnée d'Alexandre Prince à la co-animation. Puis pour la prochaine heure, j'aurai le plaisir de m'entretenir avec M. Tristan Landry. M. Landry, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation.
C'est un plaisir.
Alors, Tristan Landry est professeur à l'Université de Sherbrooke où il enseigne l'histoire de l'Europe contemporaine. Il s'intéresse notamment aux représentations de l'histoire et aux conflits des mémoires à l'échelle européenne, mais aussi à l'histoire de l'alimentation en Allemagne et en Russie. Et si ce soir nous avons le plaisir de le recevoir, c'est pour souligner la sortie de son livre « Du beurre ou des canons, une histoire culturelle de l'alimentation sous le Troisième Reich », publié aux presses de l'Université Laval. C'est un récit passionnant qui constitue une grande contribution à l'histoire culturelle de l'Allemagne nazie et qui montre vraiment l'importance fondamentale de la question alimentaire.
D'abord, j'aimerais vous poser la question, comment vous avez commencé à vous intéresser aux questions alimentaires en histoire?
C'est assez récent, hein? C'est peut-être 10-12 ans, parce que moi, ma thèse ne portait pas là-dessus. C'était l'histoire intellectuelle de l'Union soviétique, le réalisme socialiste. Donc, c'était pas sur l'Allemagne. Et puis, mon intérêt pour l'histoire allemande, c'est venu de deux post-docs à Berlin. Donc, c'est sûr que j'ai cherché la langue, puis ensuite, j'ai commencé à m'intéresser à la culture puis à l'histoire. L'alimentation, c'est arrivé avec des discussions, hein, c'est souvent comme ça que ça se passe en sciences en général. Donc, une discussion avec une collègue qui ne travaille pas du tout sur l'histoire allemande, c'était l'histoire du Pays basque. Mais c'est ça, elle étudiait le Pays basque sous le prisme de l'alimentation. Puis en discutant, des parallèles qui se faisaient, puis j'allais chercher des concepts finalement dans sa boîte à outils qui me permettaient de mieux comprendre ce que j'enseignais. J'enseigne l'histoire de l'Allemagne à l'Université de Sherbrooke. Puis ça m'a amené éventuellement à me familiariser avec une historiographie qui existait déjà, mais qui est peu connue finalement en langue française. C'est une historiographie plutôt germanophone. C'est une historiographie qui essaie d'expliquer en partie l'Holocauste par les préoccupations alimentaires de l'Allemagne. Et ces préoccupations prennent racine dans un traumatisme qui est celui du blocus. On en parle souvent assez peu. Des émissions de vulgarisation sur la Première Guerre mondiale vont parfois complètement passer sous silence cette réalité-là. Peut-être parce que c'est pas très flatteur pour les vainqueurs de cette guerre, parce que c'était un blocus qui a privé d'aliments la population allemande entière, sauf peut-être les mieux nantis qui ont réussi, à, avec le marché noir, à survivre. Mais sinon, c'est des femmes et des enfants qui sont morts. Et on parle de plusieurs centaines de milliers de morts. Les estimations varient, les plus basses allant de 400 000, les plus hautes allant à 750 000. Et ça, ça a été imposé par les Britanniques essentiellement. Et donc, l'idée de ce livre, et en même temps, bon, je vous le dis, je ne suis pas si innovateur parce que c'est déjà une historiographie qui existe, mais c'est que ce traumatisme explique en grande partie la naissance et puis la popularité et les objectifs du national-socialisme.
On arrive déjà à notre première pause musicale, donc on vous laisse avec Lily Marlene pour quelques minutes, puis on revient plus tard.
De retour à 3100 secondes d'histoire sur les ondes de Chiz et vous venez d'entendre donc le classique Lily Marlene enregistré par Marlène Dietrich en 1944. Donc nous sommes avec Tristan Landry, professeur de l'Université de Sherbrooke en histoire européenne qui nous parle de son dernier livre portant sur l'histoire de l'alimentation dans le Troisième Reich. Et donc vous avez évoqué avant la pause vraiment comment le blocus naval de la Royal Navy durant la Première Guerre mondiale va marquer les esprits des Allemands. Et donc est-ce que vous pourriez élaborer un peu sur la manière dont ça va se manifester, disons, dans les années qui vont suivre et surtout qui vont mener un peu à la montée en popularité du Parti national-socialiste?
Oui, ben, ce que ça a été révélateur pour les Allemands, le blocus, c'est que le système capitaliste mondial de l'époque était basé sur une vulnérabilité. L'Allemagne industrielle, qui était la plus grande puissance industrielle après la Grande-Bretagne, avait délaissé ses champs. Littéralement, les gens partaient des campagnes de l'Est pour aller travailler dans les usines de l'Ouest, dans le bassin de la Ruhr, la Rhénanie. Et c'était tout à fait logique. La Grande-Bretagne avait fait la même chose. L'idée était de produire des biens industriels et puis d'importer des denrées alimentaires, notamment de la Russie, de l'Europe de l'Est. Et c'était plus avantageux que comme ça. Puis c'était en accord avec le libéralisme, laisser faire, laisser passer. Mais ça fonctionnait très bien, disons, jusqu'à ce qu'on soit en guerre. Quand on était en guerre, ben là, il était impossible de s'approvisionner auprès de la Russie, qui était maintenant ennemie. Et puis plus ce blocus qui empêchait les bateaux d'apporter la nourriture en Allemagne. Et donc, après la guerre, ce qu'on réalise, c'est que c'est important d'être autarcique si on ne veut pas se retrouver dans la même situation. Et donc, se développe d'abord dans la République de Weimar la recherche de l'autarcie de différentes façons. La façon la privilégiée, ça va être la science. Certains parlent de la science comme étant peut-être la dernière ressource nationale. L'Allemagne avait perdu toutes ses colonies, elle a perdu beaucoup de territoires, dont des terres agraires à l'est avec le traité de Versailles, l'amputation de ces territoires pour créer à nouveau la Pologne. Et donc, l'idée, c'est d'investir dans la science. Donc, plusieurs domaines de la science qui vont recevoir des portefeuilles substantiels pour faire une recherche. L'un d'eux, c'est la nutrition. Donc, on va commencer à réfléchir à qu'est-ce qui est une alimentation efficace. Donc, la calorie, essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait nourrir les gens selon leurs besoins nutritionnels. Et ça va développer des idées qui vont perdurer après la guerre. Parmi les nutritionnistes nazis qui vont faire des expériences sur les humains, il y en a qui vont publier dans la revue américaine Science les résultats de leur recherche en omettant de mentionner que ça avait été réalisé sur des travailleurs forcés russes. Donc, la nutrition, c'est un des champs. L'autre, c'est l'agriculture. J'ai tout un chapitre dans mon livre, qui est j'en ai un sur la nutrition, j'en ai un autre sur l'agriculture, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se sont faites pour essayer justement d'arriver à l'autarcie en créant des plantes qui sont plus productives, qui prennent moins de temps à pousser. Et ces recherches-là sont vraiment à la fine pointe de la génétique à l'époque. Là. Avec la culture sélective, on va arriver à développer des sortes de soya qui réussissent à pousser en Allemagne, alors que ce n'était pas possible à l'époque. Puis le fait qu'on puisse maintenant faire pousser du soya au Québec, ben c'est en partie le résultat de ces recherches qui ont été menées d'abord dans la République de Weimar, puis ensuite poursuivies par les nazis.
Donc c'est ça, en plus des enjeux de production puis d'agriculture dont vous avez parlé, mais il y a aussi les manières de consommer de la nourriture qui sont revues par le régime nazi, entre autres. Je me demandais quelles étaient les stratégies proposées pour assurer vraiment une utilisation pleine des aliments.
À un certain moment, déjà sous la République de Weimar, mais ensuite aussi dans l'Allemagne nazie, ben, on réalise que ces progrès, tant en matière nutritionnelle qu'en matière d'agriculture, ne seront probablement pas suffisants. Et donc, il faut aussi mener une rééducation de la ménagère. Mais il y a un très... très important fond de misogynie ici, qui était déjà présent avant la guerre. Nietzsche a écrit la femme cuisinière qui est stupidité, comme quoi elle n'était pas assez intelligente pour vraiment valoriser les aliments de façon efficace. Puis on soupçonnait aussi la femme de ne pas avoir su bien cuisiner avec les coupons de rationnement pendant la guerre. Donc là, les nazis se disent on va les rééduquer. Hein, le nazisme, c'est pas vraiment une idéologie où la femme a sa place dans le marché du travail, mais on présente son travail à la maison comme étant en soi une profession. Et tant qu'à faire, on commence à donner des cours. C'est déjà au 19e siècle, sur la République de Weimar aussi. Il y a des cours qui sont organisés pour que la femme soit plus efficace en cuisine. On va aussi éditer des livres de recettes qui sont beaucoup plus détaillés qu'auparavant, parce qu'on soupçonne que la transmission des savoirs a été brisée entre la femme, la mère et la fille. Donc, tout ça se met en place. Et pourquoi on veut la réinscrire? On veut qu'il y ait moins de gaspillage. Alors, il y avait Schultz Klink, qui était à la tête de l'Organisation des femmes, qui avait dit que si chaque année en Allemagne, avec les petits bouts de pain qui étaient jetés, on aurait pu remplir un convoi de wagons entiers, une image qui est souvent réutilisée pour montrer à quel point on arrivait plus rapidement à l'autarcie si on arrêtait de gaspiller. Donc, il y a toutes sortes de recettes, là, puis il y en a plusieurs dans le livre, même pour chaque chapitre, qui montre comment on utilisait toutes les ressources possibles. On va aussi essayer d'éduquer les Allemands pour qu'ils mangent davantage de poissons, parce qu'on considère que la mer est notre seule colonie. Puisqu'on a perdu les colonies, ben, il faudrait que les Allemands se nourrissent de la mer. Donc, il y a beaucoup de recettes qui sortent. Là, il y en a une dans le livre, c'est une choucroute de poisson, donc ça peut surprendre, et pourtant, c'est très, très bon. Je vous encourage à l'essayer. Et c'est ça un peu le côté délicat de cette recherche, c'est que là ici, je vous parle de bonnes idées, mais c'est un régime horrible, extrêmement violent, raciste, tous les défauts. Mais en même temps, cette situation de ressources, de recherche des ressources a mené à une ingéniosité qui n'est pas toujours condamnable. Par exemple, ici, les idées de ne pas gaspiller, puis je pourrais en mettre d'autres dans le livre, aller faire vos courses avec des sacs réutilisables. Le recyclage, ça me semble des nouvelles, ça avait été déjà plus ou moins inventé pendant la Première Guerre mondiale, mais ensuite, c'est systématisé par les nazis, notamment récupérer ce qu'on peut quand même pas cuisiner, mais pour nourrir les porcs. Plein d'idées comme ça qui sont, louables ou si détestables, ce régime souhaite-t-il. Manger local, on parle beaucoup de locavorisme à l'heure actuelle, ben c'est aussi quelque chose qui est valorisé par les nazis, parce que ça va dans le sens de leur autarcie. Et à un certain moment, ils s'aperçoivent que toutes ces solutions, finalement, ne seront pas suffisantes, et donc ils reviennent à ce qui était déjà essentiellement dans Mein Kampf, c'est-à-dire qu'il va falloir envahir les autres pays.
Monsieur Landry, c'est absolument fascinant. Malheureusement, c'est déjà le temps de notre deuxième interlude musical. Alors, on se laisse un petit moment pour écouter l'extraordinaire chanson Aber bitte mit Sinne du chanteur de Schlager Udo Jürgens, que l'on pourrait traduire en français par « Avec de la crème, s'il vous plaît ».
Treffen sich täglich um 3:15 Uhr. Oh, oh, oh. Oh, yeah. Am Stammtisch im Eck in der Konditorei. Oh, oh, oh. Oh, yeah. Und blasen zum Sturm auf das Kuchenbuffet, auf Schwarzwälder Kirsch und auf Sahne Baiser. Auf Früchte, Eis, Ananas, Kirsch und Banane. Aber bitte mit Sahne. Sie schwatzen und schmatzen, dann holen sie sich. Oh, oh, oh. Oh, yeah. Noch Buttercremetorte und Bienenstich. Oh, oh, oh. Oh, yeah. Sie pusten und prusten, fast geht nichts mehr rein. Nur ein Mohrenkopf höchstens, denn Ordnung muss sein. Bei Mathilde, Ottilie, Marie und Liliane. Aber bitte mit Sahne. Und das Ende vom Lied hat wohl jeder geahnt. Oh, oh. Der Tod hat reihum sie dort abgesahnt. Oh, oh, oh. Die Hinterbliebenen fanden vor Schmerz keine Worte. Mit Sacher und Linzer und Marzipantorte hielt als letzte Liliane getreu noch zur Fahne. Aber bitte mit Sahne.
Donc, vous êtes de retour à 3600 secondes d'histoire avec Tristan Landry. Avant la pause, on a un petit peu parlé de l'alimentation au sein du pays, mais maintenant, si on avance dans le temps et qu'on approche de la guerre, ben, quels sont les impacts de l'agrandissement du Troisième Reich par l'annexion et l'invasion de territoires sur la stratégie alimentaire hitlérienne?
Quand on regarde les choses rétrospectivement, souvent dans les documentaires, dans la vulgarisation, on a l'impression que tous les Allemands voulaient la guerre, voulaient envahir les autres pays. Ce n'était pas nécessairement le cas. Ils venaient de perdre une guerre. C'était assez difficile de convaincre même certains généraux que c'était une bonne idée d'envahir la Russie. Hitler a dit que son plus grand ennemi, c'était pas la Russie, c'était Napoléon, parce qu'il fallait qu'il convainque ses généraux qu'ils n'allaient pas répéter la même erreur que Napoléon en 1812. Et écoutez, ce livre-là repose sur une analyse approfondie de vraiment beaucoup de fonds d'archives. J'ai travaillé longtemps sur ce livre. Je vais dans les archives à Fribourg, je vais dans les archives à Berlin, je vais dans les archives à Moscou. Et ce que j'ai vu là-dedans, c'est effectivement une grande réticence. J'ai vu beaucoup de gens qui étaient pourtant des rouages importants du mécanisme du national-socialisme. Et donc, souvent, les éléments les plus hauts vont devoir convaincre leurs subalternes de la nécessité tantôt d'envahir, tantôt d'exterminer des êtres humains, en utilisant la rhétorique de l'alimentation et en évoquant le souvenir du blocus. Donc, ça va être, si nous voulons assurer l'avenir de l'Allemagne, sa sécurité alimentaire, il nous faut nous emparer des terres agraires de l'Est. Et lorsqu'on arrive à exterminer des êtres humains, ça va être la même chose. Rappelez-vous toujours que c'est mieux quand un juif ou un polonais s'effondre de faim à côté de vous que lorsque c'est un enfant allemand qui meurt derrière. Donc, écoutez, il y a différentes théories pour expliquer quelque chose d'aussi radical puis qui demeure une énigme qu'un pays civilisé qui se met à exterminer avec d'abord des balles et ensuite des chambres à gaz, une bonne partie de sa propre population et des populations de pays autres. Il y a la thèse intentionnaliste, hein, comme quoi ils avaient toujours été déterminés à faire ça. Puis on peut regarder dans l'histoire de l'Allemagne et trouver les racines de l'antisémitisme qui a mené à ça. Puis c'est vrai en partie, puis c'est vrai aussi que des gens comme Hitler étaient des antisémites exterminationnistes de la première heure. Mais ce n'est pas tout le monde qui était comme ça. C'est vraiment caricaturé que présenter tous les Allemands comme des bourreaux volontaires, pour reprendre un ouvrage de Daniel Goldhagen. Et il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas convaincus, qui avaient des réserves morales. Je vous donne un exemple. Il y avait un type qui n'était pas un enfant de cœur, il s'appelait Koubé, dirigeait les exterminations de juifs dans les pays baltes, puis il venait d'éliminer presque tous les juifs locaux. Mais là, il y a des trains qui commencent à arriver, puis c'est des juifs d'Allemagne. Et là, il écrit à ses supérieurs, il dit « Écoutez, ce sont des gens de notre propre cercle culturel. Ils sont habillés comme nous, ils parlent allemand. Ce ne sont pas les hordes sauvages de l'Est. Je demande confirmation de l'ordre d'extermination. » On n'a pas la réponse qu'il a reçue, mais ce qu'il explique ensuite à ses propres subalternes donne une idée de la réponse qu'il a eue, puis c'est exactement ça. « Nous n'avons pas le choix, il n'y a pas assez de nourriture pour tout le monde, vous devez procéder à l'extermination. » Donc ça, c'est plutôt l'école fonctionnaliste qui est encore plus traduite. Là. Je veux dire, le plus gros livre de l'école intentionnaliste, c'est un livre qui fait 1000 pages. C'est très cher pour un éditeur de commencer à traduire 1000 pages. Ça peut expliquer en partie le retard qu'on a en français par rapport à cette école-là. Mais c'est une école qui peut expliquer beaucoup, beaucoup de choses. Moi, je ne suis pas nécessairement un fonctionnaliste à 100%. Là, je l'explique dans le chapitre 8. Là, je suis un peu... vous savez, de construire un pont entre les deux écoles. Mais je pense que la piste alimentaire permet d'expliquer beaucoup de choses. Puis en tout cas, le passage en archive, sur plusieurs années, m'a complètement convaincu de ça.
D'ailleurs, pour en revenir à votre livre, il y a un concept que vous abordez à plusieurs reprises dans celui-ci, et c'est la Lebensreform. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi ça consiste et quel rôle a joué cette réforme dans l'idéologie nazie?
La Lebensreform, c'est quelque chose qui accompagne l'industrialisation de l'Allemagne, là, que j'évoquais un peu plus tôt. Puis, on s'aperçoit rapidement là, que l'industrialisation, c'est pas nécessairement la meilleure chose pour la santé des êtres humains. Là. Il y a beaucoup de préoccupations pour la pollution de l'air, même la pollution sonore, comment les gens qui s'inquiètent de ça, le fait que les aliments soient de moins en moins naturels. On s'inquiète de l'impact que peuvent avoir les engrais chimiques sur notre santé. Aussi, les additifs alimentaires qu'on commence déjà à utiliser à foison dans l'industrie agroalimentaire. Donc, il y a des gens qui commencent à privilégier un retour à la nature. Donc une réforme de la vie qui passe, parce que c'est ça que ça veut dire, une réforme. Donc, retourner à la terre. Au début, l'idée, c'est d'y aller la fin de semaine. Donc, l'idéal, c'est d'avoir une petite cabane avec un petit jardin, puis refaire ses forces pour ensuite retourner à l'usine. Mais ça va bientôt se développer sous forme d'une colonisation intérieure. Donc, il y a des gens qui disent pourquoi retourner travailler la semaine? On pourrait être justement en Antarctique, sur notre colonie. Puis là, il y a même des mouvements sectaires qui se développent dans certaines colonies qui vont privilégier le nudisme, le végétarisme, le crudivorisme. Certaines sont très nationalistes, voire littéralement antisémites. Et il va se développer à l'intérieur de ça des idées qui vont inspirer les national-socialistes. Par exemple, Himmler était un ancien artamant. Les artamants sont développés justement autour d'un noyau idéologique lié à la Lebensreform qui voulait repeupler les terres de l'Est où on trouvait essentiellement des travailleurs agricoles saisonniers polonais. Donc, il y a aussi l'idée. Et cette idée-là est relativement nouvelle parce que, je vous disais tantôt, on peut expliquer l'extermination des Juifs par une longue histoire de l'antisémitisme. C'est moins vrai du sentiment anti-polonais. Donc, déjà, il se développe ici, là, ce sentiment qui va mener à la formulation de l'idée que les Polonais seraient les prochains. Hein. Ils étaient les prochains sur la liste après les Juifs. Les Russes aussi. Les Russes, ont été exterminés quand même un assez grand nombre. On parle de 3,5 millions de prisonniers de guerre soviétiques qui étaient considérés civils dès lors qu'ils avaient baissé les armes devant la Convention de Genève, même si la Russie n'avait pas signé, l'Allemagne avait signé. 1 million de personnes qui sont mortes pendant le siège de Leningrad. Hein. Donc, tous ces gens-là étaient sur la liste. Puis, si on remonte à la Lebensreform, on trouve déjà des idées ici qui sont assez près de ça. Vous avez ajouté une pincée de darwinisme social, et puis vous commencez à avoir tous les éléments de cette recette infernale.
Ça touche un point intéressant, je trouve, avec ce que vous avez dit. Donc, vous avez évoqué effectivement les mouvements végétariens qui se sont développés à cette époque-là. Hitler lui-même était végétarien, et pourtant ça peut faire sourciller, parce qu'en souvent aujourd'hui on associe beaucoup le végétarisme à une position qui est morale, de voir un régime aussi sanglant, aussi misanthrope en faire l'apologie. Donc, quelles étaient les raisons de mettre de l'avant le végétarisme dans l'idéologie nazie?
Il y a deux raisons essentielles à l'intérêt du végétarisme en Allemagne. Déjà, avec la Lebensreform, il y a cette idée que c'est pas bon de manger trop de viande, qu'il faut manger davantage de légumes. Il va y avoir des critiques formulées à cet égard. Par exemple, dans le roman de Hans Pache, qui décrit le regard d'un Africain sur l'Allemagne. Les Allemands sont décrits comme des mangeurs insatiables de saucisses. Puis, déjà, se développe l'idée que, finalement, c'est peut-être pas le meilleur régime. Mais ensuite, après le blocus, se développe aussi l'idée que c'est beaucoup plus efficace de manger directement les légumes produits par la terre que de manger les animaux qui ont mangé ces légumes. Et c'est un rationnement tout à fait logique qu'on utilise encore aujourd'hui pour vanter les mérites d'un régime végétarien. Se pose cependant la question que l'on devrait davantage se poser aujourd'hui, c'est-à-dire que si on ne peut plus utiliser la fumure animale, qu'est-ce qu'on va utiliser pour renouveler la fertilité des sols? Donc, c'est intéressant dans les revues de l'époque, il y a toute une série d'articles qui s'imaginent une toilette pour humains qui composte les selles humaines. Et donc, il y a l'idée que, est-ce que c'est hygiénique? Et il y a aussi l'idée, est-ce que c'est en accord avec certaines immunologies? Je ne sais pas si vous connaissez l'agriculture biodynamique. Des fois, on voit des vins, des SAQ classés biodynamiques. Tout ça, ça monte à Rudolf Steiner, qui n'est pas du tout nazi. C'est un type qui essayait d'imaginer une agriculture biologique qui ne faisait pas appel à des engrais. Et c'est un peu ésotérique. Là. C'est les cycles lunaires, etc. Mais pour lui, c'est tout à fait inimaginable. On commence à mettre des selles humaines dans les champs pour renouveler la fertilité. Mais déjà, il y a cette idée, si on regarde du côté de Hitler que vous mentionnez, la raison pour laquelle les végétariens, ils le justifient ainsi. Il revient souvent dans ses fameux propos de table, c'est quand il délirait à table dans son bunker, il y a quelqu'un qui a mis ça sur papier, il y a au moins deux versions qui me sont parvenues. C'est sûr, ça a été édité, considérer ça comme verbatim de Hitler, mais il y a quand même des idées qui sont développées là-dedans qui semblent bien être de lui, et il justifie notamment son végétarisme de cette façon. C'est plus efficace. D'ailleurs, il dit je ne suis pas devin, je ne peux pas dire quel sera le monde de demain, mais je peux vous dire qu'il sera végétarien. Et étonnamment, il semble avoir raison, parce que je ne pense pas que ça va être possible de nourrir 11 milliards de personnes avec du steak, ou plutôt être justement soit végétarien ou insectivore.
Vous écoutez Schiste 94.3 FM à Québec.
Du lundi au vendredi, 16h à 17h30, on se retrouve sur les ondes de Schiste pour parler d'art et de culture. Avec des entrevues exclusives, des chroniques originales et des reportages sur le terrain, je m'engage à vous partager le meilleur de la culture émergente québécoise. Chérie, j'arrive tous les jours de la semaine, de 16h à 17h30, sur les ondes de Schiste 94.3.
Salut, ici Alex Baillargeon et je vous retrouve maintenant les vendredis à Schiste pour le deuxième service du Réchaud. Le Réchaud, c'est les grands titres de l'actualité commentés à ma manière qui ont retenu mon attention et que j'ai gardé pour vous au chaud sur mon Réchaud. On parle d'insolites, de télé, de techno, de cinéma et bien sûr, des tendances du web de la semaine. Vendredi dès 11h, syntonisez le deuxième service du Réchaud sur les ondes de Schiste 94.3.
Suivre l'actualité à tous les jours, c'est de la grosse job. Mais t'as quand même besoin d'un bon sujet de conversation sur ta terrasse pour pas avoir l'air trop bête devant ta date Tinder. Bonne nouvelle! Guillaume Bédard t'explique les sujets chauds de la semaine tous les samedis de l'été à partir de 17h. C'est tout ce que t'as besoin de savoir avant de sortir.
Sur une distance de 20 verres, la coupe Vanier au bout du pied.
C'est la mort! Frappé solidement par White du côté gauche. Ouais. Circuit! Les Capitales qui reprennent les devants!
Pour ton sport local, écoute Schiste 94.3.
Tu es en manque de festivals, de spectacles en personne, de découvertes musicales? Eh bien, ouvre tes oreilles. Le Festival Off de Québec est de retour cet été avec son petit Off volume 2. Un peu comme l'été passé et suivant les consignes sanitaires, c'est une version un peu réduite du festival, mais ô combien chaleureuse et riche en découvertes musicales. 13 spectacles en personne sur 5 jours, 5$ par spectacle, c'est capoté. Le Petit Off volume 2, co-présenté par la Fabrique culturelle et Schiste 94.3 du 7 au 11 juillet dans la cour extérieure des ateliers du réacteur au 715 rue Saint-Vallier-Est. Programmation sur québecoff.org, billets en vente sur lepointdevente.com.
Si j'ai bien compris, vous êtes en train de me dire au prochain segment.
Je me demandais en fait, quelles étaient les nouvelles idées en matière de nutrition qui circulent dans les années 30-40?
Écoutez, justement à cause de ce traumatisme et de la recherche de solutions pour atteindre le tarsi, il y a des recherches tellement importantes qui se font dans ces années-là qu'on commence seulement à les redécouvrir. Par exemple, on parle beaucoup d'aliments fermentés, les probiotiques, les prébiotiques. Bon, c'est pas les Allemands qui ont découvert ça. C'est un Russe, c'est Mieschnikov, des premiers à montrer que la consommation de yogourt expliquait la longévité des paysans bulgares. Mais les nazis se sont emparés de ce champ de recherche, puis ils ont été beaucoup plus loin, puis ils ont identifié différentes bactéries dans le système intestinal qui étaient responsables de différents mécanismes. C'est eux les premiers qui ont montré qu'on pouvait prévenir certaines formes de cancer en introduisant les aliments fermentés. La recherche sur le cancer, c'est quelque chose qui commence dans l'analyse. Il y a un ouvrage qui a été écrit au complet sur le sujet de The Nazi War on Cancer de Robert Proctor. Même s'il aborde très peu les aliments fermentés, c'est plutôt la cigarette, des choses comme ça. Mais oui, c'est une recherche incroyable sur laquelle les scientifiques vont surfer après-guerre, même si on va oublier certaines recherches puis en faire la redécouverte seulement récemment. Par exemple, je consultais les revues médicales de l'époque, puis ils disaient que manger moins quand on avait une tumeur cancéreuse allait faire en sorte que la tumeur n'allait pas croître davantage. Ça a complètement été oublié, puis d'ailleurs, c'est impossible d'utiliser ces recherches-là parce que beaucoup ont été faits sur des cobayes, donc c'est pas éthique de le faire. Mais récemment, j'ai vu passer une découverte comme quoi effectivement, le régime avait un effet sur le développement des tumeurs cancéreuses. Et c'est pas le seul champ où il va y avoir une postérité de leurs idées. Je vous parlais du soya tout le temps. Le soya, on le sait, c'est au cœur de la révolution verte, là, celle qui se développe après-guerre, justement, qui nous permet aujourd'hui d'être aussi nombreux, 7 milliards sur la Terre. On n'aurait pas pu atteindre ce chiffre-là si ça n'avait pas été de la révolution verte qui a développé justement des nouvelles plantes capables de se développer avec moins d'eau, produire plus de fruits, des plus gros fruits. Et ceux qui avaient été dans la recherche nazie se sont retrouvés à travailler pour les organisations mondiales qui structurent la révolution verte. Donc, leur savoir a continué. Ils ont continué à publier sur le soya, puis tout ce qui fait la révolution verte. Donc, c'est un peu choquant, en fait, de voir que ces gens-là ont pu avoir une carrière après-guerre, même s'ils avaient fait des choses horribles. Mais en même temps, l'histoire, c'est pas noir et blanc, c'est tout en nuances. Donc, ça permet d'expliquer où on est à l'heure actuelle.
Puis, dans quelle mesure ces découvertes-là, ces avancées agricoles-là vont être acceptées dans les cuisines allemandes?
Oui, ça, c'est un bon point. Il y a beaucoup de réticences. Par exemple, le soya. Comment voulez-vous cuisiner avec le soya si vous n'avez jamais cuisiné auparavant? Donc, on utilisait beaucoup de la farine de soya. Là, les ménagères allemandes avaient tendance à vouloir utiliser ça comme de la farine ordinaire, ce qui est contre-productif. Donc, à un certain moment, ils se sont dit, on va réserver ça. On ne le vend plus aux ménagères, on va réserver ça pour les cafétérias. Donc, ce sera seulement dans les cafétérias avec des chefs qui ont une formation particulière pour cuisiner. Il y a plein d'autres choses qu'on attendait de la ménagère qui étaient tout à fait déconcertante. Par exemple, le sang. Il ne fallait plus jeter le sang dans l'évier. Donc, il fallait récupérer le sang. Mais là, comment vous cuisinez un pudding de sang si c'est la première fois que vous avez fait ça? Donc, d'où l'importance des livres de recettes qui paraissent. Les entrailles des animaux aussi, on commence à revaloriser, comme on l'a fait pendant la Première Guerre mondiale, des parties de l'animal comme les poumons. Hein, c'est pas évident de cuisiner des poumons. On n'a d'ailleurs pas le droit de le faire au Québec. La MAPAC interdit la vente des poumons. Mais là, vous avez plein de recettes. À l'époque, j'en ai mis une dans le livre. Vous m'avez dit, avant l'entrevue, avant l'entrevue, particulièrement dégoûtant, là, je trouve d'un de poumons. Mais c'est sûr que même pour l'époque, là, c'était pas évident pour le ménageur.
À ce moment-là, on se demande... Il devait y avoir des chefs ou des gens qui inspiraient donc dans le domaine culinaire. Donc, est-ce que il y avait une place qui était faite aux chefs dans cette révolution culinaire en Allemagne?
Moi, j'ai travaillé beaucoup pour le chapitre là, sur la gastronomie avec une revue qui s'appelle Q, qui est La Cuisine. C'était la revue officielle de la Guilde des chefs. C'est vraiment intéressant parce qu'elle existait déjà avant. En national-socialisme. Là, on voit comment ça se transforme sur le national-socialisme. Puis, on voit que ça s'adresse vraiment à une nouvelle génération de chefs qui, vous connaissez le concept de distinction de Bourdieu, les nouvelles élites commencent par discréditer l'ancienne pour se créer une niche, finalement. C'est exactement ça qui se passe. Donc, on a des jeunes chefs qui veulent s'imposer en respectant l'idéologie du national-socialisme dans les cuisines. Donc, une idée de « on va réaliser le tarsi en éliminant le gaspillage ». Donc, tout d'un coup, ce qui était considéré comme inacceptable, présenter des restes, apprêter des restes pour le client, ça devient quelque chose d'honorable. Même chose, le poisson, auparavant, je l'ai mentionné, les Allemands levaient un peu le nez sur le poisson, mais là, on introduit une journée, chaque vendredi, le menu doit être composé à majorité de poissons. Puisqu'on veut réaliser le tarsi, il faut aussi cuisiner avec des aliments locaux. Donc, le cavourisme, ce qui est un peu plus difficile lorsqu'on aborde des épices. Beaucoup des épices qu'on utilise en cuisine sont des épices exotiques. C'est vrai pour l'Allemagne aussi. Donc là, se développe toute une littérature sur les épices allemandes. Il y a quand même un SS qui va publier un petit livre, Deutsche Gewürze, les épices allemandes, qui montre un peu comment remplacer toutes les épices exotiques par des choses qui poussent même à l'état sauvage en Allemagne. Donc, c'est quand même intéressant de voir ça. Et ils vont aussi se tourner vers... par les livres de recettes qui datent de l'époque pré-industrielle, c'est-à-dire quand justement l'Allemagne n'importait pas ses denrées alimentaires, donc cuisinait local, c'était la norme. Donc ils retournent vers les livres de recettes historiques et essaient de se réapproprier des recettes. Et notamment, une d'elles va connaître tout un destin dans le national-socialisme, c'est l'Eintopf. L'Eintopf, littéralement, c'est un chaudron. Donc, c'est très simple. Vous mettez tout dans le même chaudron, puis vous faites cuire ça. C'était déjà populaire dans la Première Guerre mondiale parce que ça demandait peu d'énergie. En plus, on utilisait des boîtes à cuisson. C'est-à-dire, vous portez l'ébullition, vous tuez les bactéries. Ensuite, vous mettez ça dans une boîte qui est isolée avec du foin. Donc, c'est un peu l'ancêtre de notre mijoteuse. Mais là, on redécouvre l'Eintopf sur le national-socialisme. Puis, on en fait littéralement un plat qui a la valeur d'une eucharistie nationale. Il y avait une fois par mois, le dimanche de l'Eintopf. Donc, l'idée, c'était qu'il y avait des soupes populaires, mais où toutes les classes sociales se joignaient, donc des plus pauvres aux plus riches, militaires et civils. Et tout le monde mangeait un même plat. Donc, c'est l'idée de créer la Gemeinschaft, la communauté, à travers l'alimentaire. D'ailleurs, il y a un site web qui accompagne le livre. L'adresse est sur la carte à l'intérieur du livre. Et quand on y va, ben, c'est une story map, là, une carte narrative. Mais à un certain moment, quand on arrive à la question de la gastronomie, j'ai mis un extrait d'une vidéo où on voit un Eintopf où toutes les classes sociales sont mélangées. Et même à la fin, Hitler lui-même se joint à cet Eintopf. Mais ce qui est drôle, c'est que même si les idées étaient déjà présentes dans ces vieux livres de recettes, c'est en grande partie une invention nazie, l'Eintopf.
Oui, ben, c'est intéressant que vous mentionniez le site à la maison, allez le voir, ça vaut vraiment la peine. Bon, on parlait de manger local, en fait, il y a le tourisme local qui va se développer aussi à cette époque-là. Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu?
Oui, ça aussi, c'est une invention nazie. Le tourisme local. Le tourisme existait déjà, bien sûr. Il y avait les fameux guides de voyage Baedeker, soit l'équivalent du guide du Routard ou du guide Michelin allemand, qui est très vieux, là, ça date du 19e siècle. Puis, il faisait des livres de recettes pour les pays étrangers, mais il en faisait aussi pour l'Allemagne, bien sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il ne parle jamais de la cuisine allemande dans les guides Baedeker. Par contre, si vous prenez un guide Baedeker de la fin du 19e siècle sur l'Italie, on va vous parler des restaurants, des plats italiens, des spécialités locales. Pour l'Allemagne, zéro. Il n'y avait rien. Pourquoi? Parce que les Allemands dénigraient leur propre cuisine. C'était considéré une cuisine vulgaire, basse, grasse. L'élite mangeait français, comme toutes les élites d'Europe, et on tendait à ignorer cette cuisine allemande. Les nazis, quand ils arrivent au pouvoir, ils vont instaurer une propagande de valorisation des régions. Je ne sais pas si vous avez vu Le Triomphe de la Volonté, le grand film de propagande de Leni Riefenstahl. Il y a plusieurs moments dans le film où on valorise les régions. Il y a un défilé de costumes folkloriques de différentes régions. Il y a aussi une scène où il y a des travailleurs du Front allemand du travail qui se présentent chacun en disant la région d'où ils viennent. Et ça va se refléter aussi dans la gastronomie. On parlait des chefs plus tôt. Ben, les chefs aussi vont commencer à valoriser les régions. Puis les guides Baedeker vont le faire aussi à partir de l'arrivée au pouvoir des nationaux-socialistes. On ne sait pas s'ils ont posé des conditions à la maison d'édition Baedeker lorsqu'ils leur ont fait un gros prêt qui les a sortis de la faillite dans laquelle ils étaient parce que leurs archives ont brûlé quand leurs éditions été bombardé, donc on ne saura jamais. Mais c'est clair qu'il y a un changement qui s'opère parce que tout d'un coup, là, on part de toutes les spécialités locales. Puis, ça accompagne d'autres innovations nazies. La construction des autoroutes. Bon, oui, c'est, ça a des fins militaires. Il faut apporter rapidement l'équipement militaire d'une frontière à l'autre, comme les trains avaient joué ce rôle un peu plus tôt et avaient permis à l'Allemagne de battre très facilement l'Autriche en 1866, par exemple. Mais ça aussi, une vocation touristique, surtout lorsqu'on joint ça à la Volkswagen, en la voiture du peuple, parce que oui, c'est une compagnie qui est mise sur pied par les nazis. Et l'idée, c'est que ces travailleurs peuvent éventuellement se payer une Volkswagen avec des systèmes de prêts qui, en réalité, ne fonctionneront jamais parce que la guerre va éclater et ces gens-là vont perdre leur argent. Mais l'idée est là qu'ils vont prendre leur Volkswagen, aller sur les autoroutes, puis notamment aller sur la route du vin. Autre innovation nazie, ce n'est pas les Français qui ont inventé le concept, c'est les Allemands. La route du vin, elle existe encore d'ailleurs. L'idée, c'est d'aller visiter les vignobles qui sont connectés aux autoroutes, puis comme ça, d'avoir un goût de l'Allemagne, de ses régions. Puis tout ça est très en porte-à-faux avec ce qui se faisait auparavant dans l'Empire. L'empire, c'était très Berlin, hein, c'était Hohenzollern. Puis les nazis ne veulent pas de ça. Ils ne veulent pas avoir l'impression d'un empire imposé par sa capitale, Berlin. Ils veulent vraiment donner l'impression que toutes les régions ont leur place à jouer. Puis il y a une explication pour ça. Hitler connaît très bien la force des nationalismes. Il avait même essayé de, pardonnez-moi l'expression, hijacker le mouvement nationaliste bavarois dans sa tentative de putsch à la brasserie. Donc, il connaît cette logique-là et il essaie de composer avec. Puis une des façons, c'est de valoriser l'interconnaissance qu'ont les régions entre elles. D'où toutes ces innovations que j'ai mentionnées. Puis d'où aussi le fait que de plus en plus de livres de recettes qui paraissent avec une organisation par région qui présente toutes les régions de l'Allemagne d'un point de vue culinaire.
Mais c'est absolument fou de voir tous ces liens-là donc, qui se développent et seulement en partant de la question alimentaire, de voir comment ça a mené à des développements qui, comme vous l'avez dit, sont partout autour de nous aujourd'hui. Et donc nous allons faire une petite pause maintenant, le temps de découvrir une autre chanson. Donc évidemment, il fallait bien une chanson sur la choucroute. Donc c'est du chanteur Gus Bacchus avec la chanson Sauerkraut Polka de 1991. À tout de suite.
Sauerkraut und tanze gerne Polka und meine Braut heißt Edeltraut, sie denkt genau wie ich, sie kocht am besten Sauerkraut und tanzt am besten Polka, deshalb ist auch die Edeltraut die beste Braut für mich. Ich sing die Sauerkraut Polka Tag und Nacht, schön ist die Sauerkraut Polka, weil doch sauer lustig macht. Ich sing die Sauerkraut Polka und sage laut, ich bin durch für Sauerkraut, meine Braut. Ich esse gerne Sauerkraut und tanze gerne Polka. Und meine Braut heißt Edeltraut, sie denkt genau wie ich. Sie kocht am besten Sauerkraut und tanzt am besten Polka. Deshalb ist auch die Edeltraut die beste Braut für mich.
Bon, vous êtes de retour à 3100 secondes d'histoire. Avant la pause, on a parlé de tourisme intérieur. Mais maintenant, de quelle manière l'idéologie nazie va concilier les traditions culinaires des territoires occupés?
Oui, ça dépend de quel territoire on parle, bien sûr. Si on parle de la France, les Allemands ont quand même beaucoup la gastronomie française. On va essayer de changer ça. Mais lorsqu'on parle des territoires occupés à l'Est, là, c'est tout à fait une autre réalité. Et ça contraste beaucoup avec ce qui se faisait sous le colonialisme. Le colonialisme, malgré tous ses défauts, c'était pas nécessairement une obliteration totale de l'autre. J'ai consulté des revues, le Tropenpflanzer, par exemple, qui est le paysan sous les tropiques, finalement. Donc, c'était l'idée de construire une agriculture coloniale allemande dans des pays qui sont quand même désertiques. Mais pour ça, il y a quand même un intérêt pour ce que les populations locales faisaient déjà, notamment en termes de savoir culinaire. Les nazis, c'est plutôt une oblitération totale. de l'autre, notamment de sa cuisine. Donc, je parlais de Baedeker plutôt. Il va y avoir un guide Baedeker pour le général gouvernement. Le général gouvernement, c'était la Pologne occupée. Et là-dedans, tout, si on parle de restaurants, c'est des restaurants allemands qui sont tenus par des Allemands en Pologne. Donc, on ne parle absolument pas de la cuisine polonaise. Et c'est bien sûr la même chose pour la cuisine juive. Ça va de soi, mais on va commencer à parler de la cuisine juive dans les pages d'un BDK sur le général gouvernement. C'est un peu dommage qu'ils aient été aussi racistes parce qu'ils auraient pu régler certains de leurs problèmes formulés par eux en s'intéressant à la culture culinaire juive. À un certain moment, il y a un institut qui est créé, un institut pour les questions alimentaires, et ils vont se créer un programme de recherche. Dans ce programme de recherche-là, c'est notamment trouver des recettes pour valoriser certains aliments qui permettraient de réaliser encore plus facilement l'autarcie. Ils vont s'intéresser, par exemple, au maïs. Le maïs n'est pas nécessairement très cultivé à l'époque en Allemagne. Donc, ils se mettent, comme dans leur cahier des charges, à étudier les cultures amérindiennes qui faisait usage du maïs. Donc, c'est vraiment intéressant de voir cette ouverture-là. Mais il n'est pas question d'étudier les Juifs. Bien sûr, les Juifs doivent être exterminés tant physiquement que culturellement. Mais s'ils s'étaient intéressés à la culture ashkénaze, des Shtetl en Pologne, c'est des gens qui vivaient depuis des siècles dans un état d'extrême pauvreté et qui donc avaient développé des savoirs culinaires pour mettre en valeur toutes les parties de l'animal, tant que ce soit cochon, bien sûr, manger toutes sortes de choses qui, sur lesquelles les Allemands auraient probablement levé le nez. Et je donne plusieurs pages, des exemples de ce qu'ils auraient pu trouver s'ils avaient daigné s'ouvrir à cette culture-là. Mais bien sûr, c'est pas possible. C'est une idéologie trop ancienne pour pouvoir ouvrir un livre de recettes de cuisine juive.
Donc, vous présentez à merveille toutes ces transformations-là qui surviennent autant dans les ingrédients qu'on va choisir que dans la manière dont on les apprête, mais dans votre livre, vous évoquez aussi comment les espaces de la cuisine vont se transformer. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur comment autant l'espace domestique que les restaurants vont se transformer?
Oui, ça m'a beaucoup intéressé, cette partie de ma recherche-là, puis c'est le chapitre 7 sur ce que j'appelle la nutritexture. C'est pas quelque chose qui est très recherché. Je pourrais vous donner quelques livres qui ont abordé le rapport entre l'architecture et la nourriture, mais c'est très intéressant. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire là-dedans. Mais donc, je parle effectivement d'architecture des restaurants. Donc, on essaie de réimaginer ce qu'un restaurant allemand devrait être pour être authentique, parce que c'est important, le décor. Donc, on va revisiter certains meubles médiévaux. Il y a tout des livres qui sortent à l'époque là, qui présentent des modèles idéaux d'architecture pour les restaurants. La cuisine domestique aussi, celle dans laquelle l'aménageur cuisine, va être repensée. Mais ça, c'était déjà amorcé sous la République de Weimar. Probablement que chez vous, chez moi, on a tous à peu près la même cuisine. C'est une cuisine qui est inspirée de la cuisine de Weimar, la cuisine de Francfort, qui a été pensée par une jeune architecte. D'ailleurs, c'était pas évident à l'époque d'être une femme à étudier en architecture. Tout le monde avait essayé de la convaincre d'abandonner, mais c'est elle qui est arrivée avec ce modèle d'une cuisine très petite, mais entièrement fonctionnelle, dans laquelle on ne fait rien d'autre que cuisiner. Parce qu'à l'époque, les cuisines, c'était plutôt des Wohnküche, une cuisine dans laquelle, littéralement, on vit. Donc, il n'y avait pas juste la cuisine qui se faisait là. On faisait les devoirs avec les enfants, on réparait le vélo, on faisait toutes sortes de tâches. Puis, même dans les villes, boucler les fins de mois, on louait la cuisine à des étrangers qui dormaient là. Donc, c'est vraiment pas hygiénique, mais il n'y en a pas le choix. Okay? Elle arrive avec cette idée, cette jeune architecte, d'une cuisine petit, mais qui sert seulement à cuisiner, est très, très fonctionnel, avec des systèmes d'éclairage qui se déplacent sur des fils, donc qui permettent d'avoir toujours une bonne luminosité quand on travaille, des surfaces lisses, facilement lavables, même les matériaux, soit des matériaux et pour but d'encourager l'efficacité. Et cet architecte a été beaucoup influencé par ce qui se faisait à la même époque aux États-Unis, où on essayait d'améliorer en rationalisant le travail des femmes dans les cuisines. On étudiait même leurs mouvements avec des petites ampoules électriques placées sur tous les membres. Donc après ça, on étudiait les mouvements que ça avait dessinés sur la pellicule, puis on essayait de voir comment est-ce qu'on pourrait améliorer ça. Bon, ici aussi, il y a un fond de misogynie, même si cet architecte n'était pas bien sûr elle-même misogyne, mais le besoin auquel elle venait répondre, c'était le même besoin selon lequel bon, la femme n'est pas assez formée pour bien travailler en cuisine. Donc, on va l'aider en lui créant un environnement qui est très étroit. C'est pas une cuisine qui est peut-être large de 2 mètres. Donc, ça imagine aussi un corps svelte pour la femme. Puis ça, on se remet dans le contexte des corsets, des régimes. Puis, on pense pour elle différentes activités. Donc, faire du sport, c'est pas imaginable pour une femme de faire du sport, mais là, ça devient imaginable si ça lui permet d'être plus efficace en cuisine, vous voyez le raisonnement. On va l'encourager aussi à avoir des loisirs, à condition que ce soit des loisirs qui vont dans le même sens. Donc, faire du magasinage, du moins que ce n'est pas pour admirer des choses dans des vitrines, mais pour comparer les prix, pour trouver les meilleures aubaines. Là, à ce moment-là, ça devient quelque chose qui est valorisé. Et donc, pour combler le tout, effectivement, on repense les cuisines. Il y avait certaines critiques à l'époque par rapport à la cuisine de Francfort, et l'une d'elles, c'était qu'elle ne favorisait pas la transmission mère-fille des savoirs culinaires, parce que c'est assez difficile de se tenir à deux dans une cuisine aussi petite. Donc, il y en a qui vont apporter des modifications. On va construire une fenêtre qui permet de passer les plats, mais permet aussi à quelqu'un d'observer la mère pendant qu'elle cuisait. Mais certains critiques ont perduré. Certains appellent ça la salle des machines, puis pensent que c'était mieux finalement une vente cuchée où le cœur de la famille battait et où on pouvait se transmettre des savoirs. Il y en a aussi qui étaient assez critiques sur la possibilité même de rééduquer la ménagère, même en lui donnant une nouvelle cuisine. Et c'est pourquoi certains vont beaucoup insister sur les cantines pour ouvriers, donc les cafétérias. C'est plusieurs millions d'Allemands chaque jour qui prennent leur repas dans une cafétéria. Donc, elles sont pensées aussi pour faire pénétrer la lumière en abondance, toutes sortes de principes qui sont empruntés en grande partie de la Lebensreform, qui vise à la circulation de l'air. On va repenser les cuisines pour éviter qu'il y ait des îlots de chaleur. Donc, on va disperser plusieurs petits fours et en avoir un gros au milieu. Même chose pour les éclairages. Donc, il y a vraiment toute une réingénierie. Puis, il y a même un bureau spécialisé là-dedans. Donc, j'ai trouvé les archives qui me plantent architecte sur comment repenser les cuisines. Je n'ai pas pu tout mettre comme illustration dans le livre ni sur le site web, mais j'ai par exemple des plans où il y avait déjà ça dans la cuisine de Francfort, chaque objet à sa place, il y avait même des étiquettes pour les différents tiroirs, qu'est-ce qu'ils contenaient. Bien, ça, c'est poussé à un degré supérieur dans les cuisines imaginées par le Front allemand du travail.
Bien, c'est déjà presque la fin de l'entrevue. On l'a vu tout au long de l'entrevue. En fait, cette époque-là, les années 30-40, vont vraiment influencer non seulement l'alimentation, mais aussi l'espace de la cuisine, les normes de genre aussi, vous l'avez dit tout à l'heure. Je me demandais comment est-ce que cette période-là, puis comment les idéaux nazis vont influencer la cuisine puis l'alimentation allemande sur une période qui est plus longue?
Ben, c'est une histoire qui se divise en deux après la Seconde Guerre mondiale, avec la création de l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. Donc, le discours culinaire va se développer différemment dans ces deux régions. Si on regarde l'Allemagne de l'Ouest, il n'est plus possible de se dire nationaliste, mais on peut encore se dire régionaliste. Donc, il va y avoir une grande valorisation des cultures régionales qui, d'une certaine façon, ça offre la possibilité d'avoir un sentiment national sans le dire. Donc, ça va survivre. L'Eintopf va survivre. Il y a beaucoup de livres de recettes d'Eintopf qui continuent à apparaître. Il va y avoir aussi prééminence des anciens nutritionnistes nazis dans le discours nutritionniste de l'Allemagne de l'Ouest. Du côté de l'Allemagne de l'Est, ça se passe différemment. Donc, même être régionaliste, c'est encore être nationaliste. Donc, on va condamner ce type de recette-là. Lorsqu'on valorise les cuisines du terroir, c'est déjà un regard nostalgique. Ça aussi, c'est condamné. On privilégie plutôt une cuisine très raisonnée, très rationnelle pour l'ouvrier performant en usine. Donc, on va plutôt condamner les recettes du passé pour valoriser un nouveau savoir culinaire, même si en réalité, on reprend les recettes du passé quand même. Les livres de recettes de l'Allemagne de l'Est vont aussi faire beaucoup de place aux recettes des autres pays du bloc de l'Est. Donc, on va trouver une section Russie avec des plats qui sont emblématiques. Il y en a un d'ailleurs qui est une soupe faite avec la saumure dans laquelle se trouvaient les cornichons. Donc, c'est assez salé, ça s'appelle salianka, une saumure qui est le sel et qui devient vraiment emblématique de la cuisine de l'Allemagne de l'Est. Encore de nos jours, il y a des restaurants en Allemagne, si jamais vous visitez l'Allemagne, qui se spécialisent dans cette cuisine-là, qui s'annoncent présenter une cuisine de la RDA. Vous allez toujours trouver sur le menu salianka. Donc, ça aussi, c'est une différence notable. Donc, oui, ça explique un peu tout ça.
Ben, c'est déjà la fin de notre émission. Un énorme merci à notre invité Tristan Landry. Je vous rappelle que son livre « Du beurre ou des canons, une histoire culturelle de l'alimentation sous le Troisième Reich » est disponible sur le site des presses de l'Université Laval. Puis enfin, si vous souhaitez partager ou réécouter l'émission de ce soir, elle sera disponible en balado-diffusion dès 19h30 sur le site de CHIZ. Mon nom est Annie-Pierre Brunel, j'étais accompagnée d'Alexandre Prince. Puis je vous invite la semaine prochaine pour une nouvelle émission de 3600 secondes d'histoire. Merci d'avoir été là, puis bonne soirée.
Tu t'intéresses à la scène musicale actuelle? Tu veux découvrir de nouveaux artistes? Une excellente façon d'y arriver est de plonger dans l'univers d'un nouvel album récemment ajouté sur nos ondes. CHIZ te recommande avec son émission Plein son sûr d'écouter un album en entier. Plein son sûr tous les vendredis de 10h à 11h à CHIZ 94.3.
Ici Marie-Joseph Corriveau. J'avoue que je trouve ma sentence bien sévère, mais au moins grâce à ma cage, j'arrive à capter 3600 secondes d'histoire les mercredis à 18h30 sur les ondes de CHIZ 94.3 FM.
Avide de découverte? Tu veux être informé de tout ce qui se passe dans la ville de Québec et sur les ondes chiziennes? Visite le www.chiz.ca. Tu y trouveras critiques musicales, palmarès, nouveautés culturelles, informations, nouvelles sportives et l'écoute en direct. C'est un rendez-vous au www.chiz.ca.
Vous ou un proche vivez avec une perte de vision?